Le Tarn. Cette magnifique rivière prend sa source sur le mont Lozère au-dessus de la commune du Pont de Montvert et va se jeter 300 km plus loin dans la Garonne. Magnifique rivière, oui, mais parfois surprenante, pouvant se déchaîner au rythme des saisons, de la neige fondante aux pluies diluviennes et autres épisodes cévenols. Pour cette série d'émissions, on vous propose de vivre ou revivre ces crues depuis le début du XXe siècle entre les communes de Baie-d'Ouès et des Vignes, en passant par Espagnac et Saint-Émilion. Grâce aux témoignages des habitants, des élus ou des commerçants. Le flot de mémoire, les crues dans les gorges du Tarn, de Baie-d'Ouès qu'au Curès, aux Vignes. Troisième épisode, les souvenirs en amont, entre Baie-d'Ouès, Espagnac et Quézac.
Alors moi je m'appelle Forestier Thibault et j'ai un camping à Quézac, au Chambonnet exactement. Que je gère depuis 8 ans, et voilà, où je suis confronté à ce genre d'événement climatique. Toutes les années, allez, peut-être il y a eu une ou deux années, là, quand il y a eu les périodes de sécheresse où il n'y a pas eu vraiment de crue, des petites montées des eaux, mais pas de crue. Mais sinon, c'est vraiment récurrent à l'automne et au printemps. Tout le camping est au bord de l'eau, donc on va dire que j'ai une partie qui est dans le lit mineur où il n'y a pas d'emplacement, et surtout le lit majeur, c'est tous les emplacements, en gros jusqu'à la route. Et c'est très souvent quand même que ça déborde du lit mineur. Une petite crue reste dans le lit mineur, dès que ça commence à être une moyenne crue, ça déborde. Et vu que le camping est assez plat, dès que ça commence à déborder, ça va très vite après. C'est jamais arrivé en période estivale, mais la plus grosse crue que j'ai vue est arrivée quand même au mois de juin, donc le 12 juin, si ma mémoire est bonne. Et donc c'est pas la pleine période, mais je pense qu'on a tous été un peu surpris parce qu'elles arrivent plutôt, on va dire, septembre-octobre, mi-septembre, octobre, voire début novembre, et plutôt avril-mai, juin, vraiment mi-juin, c'était quand même assez surprenant. Et en plein été, non, parce que c'est que des orages de chaleur, c'est vraiment des fronts qui s'affrontent. Du coup, l'eau peut se teinter, mais il n'y a pas de réelle montée des eaux, quoi. Moi, je suis connecté à Vigicru, en fait, tout le temps. Dès qu'ils annoncent un épisode cévenol, c'est souvent là que ça arrive. Je regarde tous les captages, il y en a plusieurs le long, en amont surtout, et en aval après pour un peu, j'ai des points de repère. Et je sais à quel moment exact, moi, l'eau à mon camping sort du lit mineur. Ce qui est là, pour moi, commence à être problématique. En sachant que moi, j'ai peu d'installations sur le camping, à part des bornes électriques. Donc elles, les bornes électriques, elles peuvent être coulées, elles sont séchées, il n'y a pas de dégâts. Je n'ai pas de mobil-home, je n'ai pas tout ça. Donc moi, je limite les risques parce que j'ai peu d'installations sur le camping. Si c'est vraiment une grosse crue, je peux avoir une heure ou deux pour vraiment réagir, quoi. Et souvent, ça arrive la nuit. Donc en pleine nuit, des fois, il faut quand même checker, mettre ses petits réveils et voir à quelle vitesse monte l'eau. Et l'avantage de Vigicru, c'est que c'est quand même des relevés très fréquents. Donc on voit vraiment les pics sur les courbes s'accélérer. Et ils ont des estimations en plus. Donc ils ont une vue sur, pareil, 2 à 3 heures à venir. Donc on peut vraiment estimer le temps qui nous reste. Et moi, vu que j'ai remarqué sur les bornages quelle était la référence sur mon camping, je fonctionne comme ça. Et ouais, au plus rapide, il faut réagir dans l'heure, quoi. Moi, j'ai mes petites anecdotes. C'est que la crue, on a l'impression que, en fait, la faune sauvage y est préparée. Et pas du tout, en fait. Moi, sur mon camping, là, sur cette grosse du fameux 12 juin, quand je suis arrivé, donc là, c'était plus en fin de matinée, donc c'était vraiment le pic de crue. Je suis revenu, plutôt. Il y avait une couleuvre qui était vraiment au bord de l'eau, paniquée, qui partait pas alors que j'étais à côté d'elle, et un castor qui était au niveau de ma mare et qui, pareil, était incapable de sortir de la crue. Je me suis retrouvé avec des truites dans la mare parce que forcément l'eau était montée dans la mare. Donc en fait, ce qui est drôle, c'est que toute la faune, en fait, y compris nous, est paniquée par ce genre d'événement. C'est pas parce que c'est des animaux aquatiques ou même les oiseaux. Enfin, il y a une perte de repères pour tout le monde. Je trouve ça assez intéressant. On s'aguerrit avec le temps, c'est-à-dire que je suis beaucoup plus capable personnellement d'anticiper les choses, de prévoir, même un peu de surprévention. Parce que quand on en a eu une qui nous a surpris, on ne se fait pas surprendre deux fois, ou différemment en tout cas. Mais chaque crue est quand même différente, du coup ce n'est pas évident de vraiment anticiper. Mais je pense qu'il y a un réel lien entre, en tout cas pour moi au camping, et je pense pour les gens d'ici, l'eau et l'humain, quoi. Donc forcément, on est tous préparés, attentifs à ces événements-là, quoi. La crainte, à la rigueur, ce serait qu'il y ait vraiment des campeurs, que ce soit une crue vraiment soudaine. Et du coup, si vraiment... voilà, la crainte, ça serait la crue d'été, on va dire. Vraiment un camping plein à ras-bord, pour ce qui est de moi. Et une montée des eaux vraiment rapide. Ça serait ma crainte. Après, quand c'est dans des périodes où on a l'habitude d'en avoir, non. On sait qu'elles vont arriver, quoi. Hors saison, c'est-à-dire en dehors de juillet-août. Oui, tout est calé, tout le monde sait. J'ai un mégaphone pour prévenir si vraiment c'était imminent et qu'il fallait aller, voilà, que je me suis fait un peu surprendre. Il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Et oui, quand ils annoncent un épisode orageux 2-3 jours avant, tous les clients qui arrivent au camping sont prévenus, quoi.
Pour terminer, nous vous proposons d'écouter nos aînés. Le travail de collectage sonore des anciens a été réalisé par l'association Mémoire pour demain avec les aînés d'Hispaniac en 2025.
Moi, je m'en rappelle très bien parce qu'on était commerçants sur Hispaniac à ce moment-là et les gens ne pouvaient pas passer du côté de Quézac, Hispaniac et ainsi de suite, Hispaniac, Quézac. Et on voyait quelques hélicoptères qui ravitaillaient les gens de Quézac. Voilà. Ça avait duré quelques jours quand même. Oui, je sais pas, c'était pas long, quoi, parce qu'après, le Tarn descend très très vite. Tant ça monte vite aussi au niveau de l'eau et ça descend très vite. On ne pouvait pas traverser, hein, je sais plus, il y avait eu un programme justement. Les gens passaient par le temple, ceux qui pouvaient. Voilà, ouais, voilà, c'est ça.
Une voiture qui s'est fait piéger là dans le chemin de Beldou, oui, complet. Il a eu le temps de sortir de sa voiture, mais la voiture est restée dans le chemin.
Peut-être qu'un 65 était un peu plus haute qu'un 82, je pense que oui.
Elle était beaucoup plus haute.
Ouais, ouais. Je crois qu'il y avait un mètre de plus, pas loin d'un mètre de plus. Ouais. Mais ça s'est déroulé également la nuit. Là, le pont Lismadag, au fond du pont, là, il était carrément inondé, on ne passait pas, quoi. Et ça, mais je me rappelle, j'étais gamin, moi. Ah oui, c'était impressionnant, mais ça c'est, voilà. Mais je sais qu'elle était très très haute, ouais. Oui, et puis 82, moi j'étais j'ai pas pu monter travailler parce que la voiture était, l'humidité n'avait pas pu démarrer, donc du coup j'en ai profité. J'ai fait des photos de Florac jusqu'à Saint-Denis. Mais c'était en décrue, à Saint-Denis, je vais prendre des crues, mais je l'ai fait que l'après-midi, mais il y avait de l'eau, hein. Moi, jusqu'à l'église, hein.
Pas sûr, d'abord de l'année, je crois que c'était en 65, et que sur la route du pont d'Hispaniac, il y avait l'eau qui arrivait jusqu'au rebord, ça fait qu'il touchait l'eau comme ça. Ça, c'était les filles pelées qui me l'ont raconté.
Oui, c'est vrai.
Disons que c'était un événement, et on se communiquait dans le village, on va voir le Tarn. Et tout le monde, on allait voir, on était sur le pont à la Crouzette. Et c'était un spectacle de voir les branches, les arbres, des fois déracinés. C'était impressionnant et on cherchait toujours à voir. Ça monte encore, non, ça monte plus. Enfin bon, voilà, c'était une activité d'animation très précise, très particulière quand même. Mais il y en a moins maintenant des crues, je ne sais pas. On était jeunes, enfin, il y a 20 ans de ça.
En bas du camping de l'Aiguebelle, moi, je dirais. Ah ouais. Avant, il y avait des colonies de vacances qui venaient, là.
C'était la Rochette.
Ouais, voilà, ça. Et du coup, comme c'était inondable et tout, il n'y avait plus de colonies, quoi. Hein. Voilà, ça a été terminé. Voilà.
Et on entend ça la nuit. Ah, la nuit, il n'y a pas de bruit. Et ces galets qui s'entrechoquent, tout ça. Et c'est fou parce que on se demande qu'est-ce qui se passe. La première fois, je ne savais pas, mais après, en ouvrant les fenêtres, les volets, et ça venait du Tarn, qui faisait un bruit naturel, voilà. Croyez-moi que ça vous fait impression. Ah oui, un bruit assez important, hein, ouais. Même les bons dormeurs se réveillent, comme on dit, voilà. L'eau n'est pas rentrée dans les maisons, mais le bruit des galets, parce que ça remue, hein, ouais, ça remue lors des crues. Peut-être ceux qui habitent plus loin ne l'entendent pas. Et là, ce matin, je suis descendu au bord du Tarn. C'est fou ce que le Tarn charrie, comme bois, comme si, comme... Voilà, hein. Ça devient presque un spectacle. Au plus c'est agité, au plus on prend du plaisir à le voir. Bon, après, pour cette Élibie, je n'irai pas leur dire ça, hein, que je prends du plaisir, parce que c'est...
L'eau au Beldou, là, le chemin du Beldou, là, la source, était pratiquement tous les ans, l'eau était sur le chemin. Hein. Mais bon, ça passait les crues, les décennales, là, ces petites crues, mais chacun, pratiquement tous les ans. Et maintenant, il n'y a plus rien, une fois de temps en temps.
Alors, ce camping-car, il était, je crois, il était ici
Eh bien, il y a 4-5 ans, la dernière recrue, la grosse de nous. C'est chez Bernadette. Parce que ce camping-car, il est passé avant Quézac, je ne sais pas, à Florac, au camping de Florac. Dans la nuit, la femme le dit à son mari, j'ai besoin qu'il bouge le car. Effectivement, ils ont eu le temps de sortir du car et il a été emporté. Il est passé sous le pont de Quézac, alors qu'il était déjà presque inondé. Il est arrivé au virage de Bombrun, là où il y a le pont. Ça fait 180, ça fait 90 degrés. Il a frappé la contre et il était encastré dans les bois de chez Bernadette. Là. Et là, le car était. Il est parti, sur le moteur, on l'a trouvé avant. Mais là, le caisson, il y avait encore les bateaux, les plus, comment on appelle ça, des barques à fond plat, là, comme ça, des paddles, qui ont été volés le lendemain. le bateau, c'est une entreprise qui est venue de Mayrace, qui est venue pour dégager pour l'assurance. Alors, comme tout avait été raviné par la crue, il n'y avait pas de chemin pour aller jusque-là. Ils étaient obligés, avec le bulldozer, de replanir le terrain pour passer le camion pour pouvoir charger ce camping-car. À Montbrun, il y a un jardin qui appartient à Joël Bosque. Il a une cabane de chantier, un cabanon. Dedans, il mettait son motoculteur, tout ça. Et le lendemain de la crue, il le cherchait de partout, il n'a pas trouvé. Deux ans après, il a fait toutes les gorges du Tarn, en partie. Là. Deux ans après, un jour, les nouveaux propriétaires du château de Charbonnière, ils découvrent un pneu qui est dépassé. Il gratte, et puis il y avait un essieu. J'ai fait à tous les coups ces bosques. Effectivement, il est venu avec son père mécanique, son tracteur, et il a retrouvé sa race. Elle était ensevelie sous le limon. C'est pour la puissance, c'est fou. C'est un truc immense, c'est complètement enseveli. Et il y a juste la roue qui sortait. La force du Tarn, c'est incroyable. Et surtout, quand ça frappe, le problème, Blajous ou Castelbouc, c'est des virages à 90 degrés. L'eau vient frapper devant, et après, ça remonte doucement. Et alors on le voit à vue d'œil, on voit le temps monter. Et d'ailleurs, une fois, je filmais en bas de Blajous, on a vu la vague qui montait de 50 cm qui arrivait. D'un coup, je regarde, j'avais des araignées qui étaient montées sur moi de partout. Ça couvrait de tous les côtés. Je l'ai même filmé. Et je disais, mais qu'est-ce que c'est ça? Elle cherchait à fuir l'eau. Quoi. Ah oui, bien sûr. Même il faut être averti à chevronner.
Mais bon, quand c'est en verre, normalement, non, c'est pas dans
le kayak et la spéléo aussi.
Quand c'est en verre, c'est
hier, j'étais avec Sophie, une copine, une amie. On était à Castelbouc, il y avait des spéléos qui arrivaient de la grotte derrière Castelbouc. S'il y a des pluies en amont, ça peut monter vite. C'est spectaculaire à Castelbouc. C'est une bouche qui est à ras de la montagne et quand ça jaillit comme un jet. Une trombe d'eau. Il faut y être le jour où ça se passe.
Ouais.
La passerelle, il lève début août, fin août, début septembre. Et là, cette année-là, ils ont attendu, et quand il y a eu l'épisode Cévenol, ben c'était trop tard. Donc, il a commencé à pleuvoir, ils ne l'ont pas enlevé, et c'est tout parti, avec le banc qui est à 10 mètres au-dessus. Ça a arraché le banc. Après, je ne sais pas l'année, comme il y a 7-8 ans, un truc comme ça.
Je peux chercher. C'est un peu comme Céline. Céline avec sa caravane. Qui était à bas de Blajous sur les rives.
Hein?
Et elle était, à 2 mètres de par rapport à la dénivellation de l'eau. Et du coup, elle a dit qu'elle ne pouvait pas la retenir. Elle est partie chercher des cordes. Le temps qu'elle a cherché des cordes, elle s'est commencée à se soulever et elle est partie. Et 2 jours après, j'ai vu sur Facebook, vous voyez, à la Malène, j'ai vu ça le flotter. Elle avait voyagé, 30 km elle avait fait. C'était la sienne qui avait encore ses paddles dedans qui foutent. Du coup, maintenant, il a d'ailleurs, comme il s'appelle Jacques, il a des places l'hiver. Mais sinon, elle l'attache. Elle aurait été attachée, elle ne serait pas partie. Et la force. Moi, j'ai vu des troncs de peupliers sur le bord de Blajous. À peine il y a 50 cm d'eau, ça commence à se soulever, à bouger, puis ça part.
Et voilà, nous arrivons tout doucement à la fin de cette série de reportages. Et pour terminer, écoutons l'un des plus beaux témoignages que nous avons eus. Et pour paraphraser Georges Santayana, ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre.
Bonjour, bonjour. Je m'appelle Pierrot Saint-Julien, j'ai tout habité à La Pontaise et je suis dans mes 90 ans maintenant. Des crues, il y en avait chaque année parce qu'il y avait une crue. Maintenant, il n'y en a plus. Moi, je travaillais dans une sablière et on faisait des trous au bord de la rivière. L'année d'après, c'était plein. Maintenant, l'eau ne vient plus. Et en 65, il avait plu un peu tout le mois d'août. Le Tarn était fort. Hein. On ne traversait pas avec les cuissardes. Hein. C'était le 25 septembre et il y a eu une crue terrible. Vous voyez, une fois, j'étais à La Rochette, j'avais la pelle là-bas. Et quand il a, enfin, j'ai sorti l'appel, quand on est revenu au pont du Tarn, vous savez où le pont du Tarn ? Il y avait 1,50 m d'eau sur la route. Sur la route. On s'est retourné, on était passé à Montmira, et le patron m'a posé de l'autre côté du pont là-bas. De l'autre côté du pont. Et j'ai passé de, et quand je passais sur le pont, là, ça vibrait. Hein. Il y avait une crue terrible. Et vous voyez, dans les prés sous le pont, là, il y avait la bergerie. C'est, et là, il y avait des brebis. Le lendemain, il y a eu 11 brebis de noyer. Mais l'eau était à la route. Vous voyez, à la Mingue. Vous savez où c'est la Mingue, là ?
Oui, je vois.
Et bien, l'eau, tous ces prés étaient recouverts. Vous voyez le sanitaire de, du camping ? L'eau était au sanitaire, là. Mmh. Il y avait une eau terrible. Vous voyez, mon père m'a tout le temps dit qu'il y avait des crues. Il en avait vu des crues, il y en a eu en 1900. Il y a eu en 65, et maintenant, il n'y en a pas. Ça nettoyait les rivières. Vous voyez les rivières. On allait à la pêche pendant l'hiver, dans le Tarn, et quand vous passiez en voiture, on voyait la rivière partout. Les crues tenaient le bois rasé. Tandis que maintenant, vous savez, passer une rivière, c'est que des arbres. Ouais. S'il vient une crue, ça va être une catastrophe. Ça va arracher tout ce bois, ça va s'arrêter dans les ponts, il va y avoir des dégâts. Mmh. C'est terrible. Vous voyez à Forac, l'eau était à la route, à la gendarmerie, vous voyez la gendarmerie là. On est allé faire des maisons tout le long du Tarnon, au bord de la rivière, là où l'eau monte. Si l'eau revient comme en 65, toutes ces maisons vont tremper. Mmh. À La Rochette, vous connaissez La Rochette peut-être pas bien, les propriétaires des maisons, ils étaient montés à la route. Ils avaient pris la valise, ils étaient à la route. Tout était dans l'eau. Ça reviendra, ça. Une fois, vous voyez, moi j'ai livré des matériaux, j'étais sur le Mont-Lozère. J'étais parti de l'hôpital, j'allais à Bellecosse avec une camionnette. Quand je suis arrivé là-haut, je me croyais dans la mer. Par les travers, il y avait ça d'eau qui descendait, des trombes d'eau qui tombaient, vous savez. Ça avait tellement charrié des détritus que ça avait fait des vagues partout. Je languissais que ça s'arrête, ça, je ne sais plus où j'étais. Et tellement qu'il pleuvait, vous voyez. C'est quand le vent change là que ça s'arrête pas. Tandis que maintenant, il ne pleut plus pareil. Vous voyez, j'habite à la Pontaise, moi. Sous ma maison, en 65, il y avait 2,50 m à 3 m d'eau sous la maison. Elle était, le camping, là, ça fait un bouillon terrible. Et ça, moi je pense que ça se reproduira, mais ça va faire des catastrophes. Ils sont allés faire des maisons là où il ne fallait pas. Je vais vous dire mieux que ça. Vous voyez là, où il y a Intermarché là, il y avait une ferme, juste Intermarché, elle n'existait pas. Il avait ses cochons, le pont neuf n'existait pas, ils n'avaient pas changé la route. Il a sorti ses cochons, qu'il habite au bord de la route, pour pas qu'ils se noient. Et maintenant, on est allé faire tout ce qu'on a fait, tous ces... On fera tout noyer. Il y a un responsable là. Il ne fallait jamais donner des permis pour faire ça. Et en même temps, ils ont remblayé, mais ils vont faire noyer Florac. L'eau montera un monument aux morts à Florac. En ayant fermé la rivière, vous voyez déjà en 65, la rivière n'était pas fermée et l'eau était au bord de la route où il y a Intermarché. Alors maintenant qu'on a mis peut-être 2,50 m, il y a les ponts aussi, il y a les DF, il y a tout un tas de magasins là, tout ça va monter. Et ça va aller noyer Florac. Je me demande si je le vois, moi.
Tout compte fait. Au pas de souci, le Tarn ne disparaît pas absolument, mais se fraye avec peine un passage au milieu d'un amoncellement de blocs, de rochers, entassés l'un sur l'autre, énormes et creusant tous les autres de sa masse. L'un d'eux porte le nom de Roc Sourde. Et au-dessus de lui, sur la pente de la montagne, debout et menaçant, un autre rocher se penche, comme s'il était prêt à rejoindre son compagnon au fond de l'abîme. C'est Roc Aiguille. La légende raconte à ce sujet que la fille du roi Clotaire, la pieuse Sainte-Enimie, en dépit de sa lèpre, était très courtisée par le diable. Il l'assiégeait jour et nuit à son ermitage, sans réussir à y pénétrer. Un soir, pourtant, Sainte-Enimie ayant eu l'imprudence de sortir, elle trouva le diable à la porte qui lui barrait le chemin. Éperdue, elle s'enfuit à travers les défilés du Tarn, poursuivie par le diable qui lui donnait une chasse acharnée. À la hauteur de Saint-Chély, elle était sur le point d'être atteinte. Elle invoqua le ciel et bientôt les trois fontaines jaillirent du rocher avec tant d'impétuosité qu'elles roulèrent le diable pendant une lieue. À demi noyé, toutefois, il se secoua et reprit sa course avec plus d'activité que jamais. Arrivée à l'endroit où se trouve aujourd'hui la perte du Tarn, la sainte sentit de nouveau ses forces lui manquer et une seconde fois implora le ciel. Aussitôt, Roc Sourde se détacha de la montagne, se précipita sur le diable et visa si juste qu'elle le saisit par la queue et l'arrêta net. Roqueguy se préparait à en faire autant et avait déjà pris son élan. Pourtant, avant de se précipiter, elle cria à Roquesourde. « Loutenes, Odaval, le tiens-tu ou dois-je descendre ?»« Loutenen, Yaprin, » répondit d'en bas Roquesourde. « Je le tiens bien, il y en a assez comme ça. » Roquesourde le tient bien, en effet, et depuis 12 siècles ne l'a pas lâché. Parfois encore aujourd'hui, quand le Tarn est gros, on entend sous l'amoncellement des rochers des gémissements étranges. C'est le diable qui se débat et essaye vainement de se dégager.
C'était le 3e épisode du Flot des mémoires, les crues des gorges du Tarn, de Bédouès Cocurès aux vignes. Les souvenirs en amont, entre Bédouès, Ispagnac et Quézac. Cette série de podcasts fait partie des actions de sensibilisation du Papy Tarn Amont 2024-2029 et a été réalisée grâce au financement du Fonds de prévention pour les risques naturels majeurs.